Bonjour, bonjour à tous. Mardi 13 mars 2018, les flocons tombent au dehors et il y a une autre chose qui revient inlassablement. Eh bien, ce sont nos voix, les voix de service. Vous êtes en direct avec nous. Je ne suis pas seul dans le studio, je suis en compagnie de Jean-Charles Algan. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour Louis.
Et nous avons bien sûr plein d'articles pour vous aujourd'hui. Allons-y pour un petit tour de ce qui vous attend.
Eh bien, dans la rubrique voyage, je vais parler de l'Airbnb pour musulmans qui débarque en Suisse en ce moment. Et puis, à propos des maisons, l'intelligence dans les maisons intelligentes et une larve dans l'assiette, on va le savoir.
On va le savoir. Je vais vous parler pour ma part d'un bateau qui tombe du ciel, d'un orang-outan fumeur ou également de la plus vieille bouteille du monde retrouvée à la mer. C'est dans quelques instants dans les voies de service. Un bateau tombé du ciel. En ce moment, nous avons plutôt l'habitude d'entendre parler peut-être de drones dans le ciel, de nouveaux appareils de ce genre, mais un bateau, il faut avouer que c'est cocasse. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler d'une nouvelle technologie, c'est un petit accident qui s'est passé. Un hélicoptère militaire canadien échappe un radeau sur une maison à Miami. Les forces armées canadiennes cherchent toujours à expliquer comment l'un de ces hélicoptères militaires a pu laisser tomber en vol un radeau pneumatique qui s'est écrasé sur le toit d'une résidence de Miami. L'hélicoptère de sauvetage Griffon participait à des exercices d'entraînement en Floride mercredi, c'était il y a 2 semaines, et retournait à une base aérienne de la garde côtière américaine lorsque l'embarcation pneumatique s'est détachée, a rapporté le porte-parole de l'armée David Lavallée. Le directeur de la sécurité des vols militaires a ouvert une enquête pour comprendre comment l'embarcation de sauvetage s'est détachée de l'hélicoptère qui est normalement basée à Trenton, en Ontario. Selon les médias locaux, une femme dormait dans son logement lorsque le bateau a fracassé le toit. Elle a comparé le bruit à celui d'une explosion. Des photos de la scène montrent un large trou dans le toit de ce qui semble être un immeuble à unité multiple. La chambre où le bateau aurait échoué est encombrée de débris. Des versions contradictoires ont circulé concernant la possibilité qu'il y ait eu des blessés ou non. Alors que le porte-parole de l'armée, David Lavallée, soutient qu'une personne a subi des blessures mineures, le porte-parole de la police du comté de Miami-Dade, le détective Lee Cowart, affirme que la version initiale a changé et que personne n'a été blessé dans l'incident. Les policiers ont été appelés sur place vers 15h, a précisé Lee Cowart, qui a ajouté que le lieu de l'incident se situe dans un corridor de vol habituel entre l'océan et la base de la garde côtière américaine. Selon la police, l'armée de l'air canadienne a rapidement été informée et ses officiers ont réagi promptement. Voilà pour les nouveaux genres d'appareils, nouveaux genres qui peuvent tomber du ciel. Donc, avant que le ciel ne nous tombe sur la tête, méfiez-vous également des embarcations, vraisemblablement.
Alors, l'Airbnb pour musulmans débarque en Suisse. C'est paru dans le magazine Le Temps, qui est un magazine suisse signé Boris Böslinger. Partir en voyage tout en logeant chez des personnes de confession musulmane, c'est désormais possible en Suisse avec MuzBnB. Ça s'écrit MuzBnB. Une plateforme de location d'appartements destinée aux musulmans du monde entier. 5 chambres, 2 salles de bain, une capacité d'accueil de 10 personnes, $400 la nuit. À première vue, rien ne distingue ce luxueux chalet à Verbier d'un autre logement du même standing. À première vue seulement, puisque sa page web précise que toute consommation d'alcool y est interdite, que la nourriture consommée sur place doit être halal et que le port y est strictement prohibé. Des tapis de prière et un exemplaire du Coran sont disponibles. Recensé sur MuzBnB, une plateforme américaine qui offre des solutions d'hébergement à une clientèle musulmane. Cette adresse helvétique est l'une des premières disponibles en Suisse. Son concept s'inspire largement d'Airbnb, le leader mondial de la location entre particuliers. L'offre de MuzBnB vise toutefois une clientèle bien spécifique, se targuant d'offrir des logements adaptée à des besoins religieux. Elle cherche également à offrir une alternative aux utilisateurs d'Airbnb qui s'estiment victimes de stigmatisation. À noter que les non-musulmans y sont également acceptés. Les perspectives pour MuseBnB sont réjouissantes. D'après le Global Muslim Travel Index, le GMTI, le tourisme islamique représenterait en effet l'un des segments les plus prometteurs du moment. Chiffre à l'appui, selon cet index, il y a 1,6 milliard de musulmans dans le monde, dont 50% ont moins de 30 ans. En 2016, 121 millions d'entre eux ont voyagé, un chiffre qui devrait atteindre près de 160 millions de personnes d'ici à 2020. Pour des dépenses en voyage de l'ordre de 220 milliards. Des statistiques prometteuses qui permettent à la porte-parole de la plateforme, Hadila Sabat Sinclair, de nourrir de grandes ambitions en terre helvétique où près de 400 000 musulmans résident. À long terme, nous espérons pouvoir offrir environ 5 000 logements en Suisse. Présidente du Forum pour un islam progressiste, Saïda Keller Messali, ne considère pas l'arrivée de MuseBnB en Suisse comme un bienfait. Ce site promeut la société parallèle et le communautarisme, déplore la titulaire du prix suisse des droits de l'homme 2016. Des frères musulmans d'Amérique sont engagés dans le projet, affirme en outre l'Helvéto-tunisienne. À peine moins critique, le président de l'Union vaudoise des associations musulmanes, Pascal Djemperli, est également sceptique. Chacun est libre de voyager comme il l'entend. Il faut toutefois faire attention à ne pas s'isoler dans une bulle. Le membre des Verts vaudois relativise cependant ce genre de démarche se fait dans tout type de communauté. MuseBnB n'est en effet pas le premier produit dérivé spécialisé d'Airbnb. Le concept fleurit. La communauté homosexuelle dispose de Mister BnB, la clientèle de couleur de noir BnB, renommé inclusif, les juifs de Jewgever, et la liste n'est pas exhaustive. Réponse à la stigmatisation et aux difficultés de réservation ou dérive communautariste, le résultat final est similaire. Être entre soi. Mister BnB promeut ainsi la possibilité de louer des logements abordables auprès d'hôtes qui vous ressemblent. Une bonne manière de garder l'argent dans notre communauté, affirme un utilisateur de MuseBnB. C'était donc mon petit article concernant le nouveau façon de s'héberger entre communautés. Fille à la
Europe.
Mal prise en otage, mon radeau à l'envers, j'ai besoin de courage, de prendre un peu d'air. Il paraît que j'ai l'amour éphémère, il paraît que j'ai l'amour éphémère. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Je suis prise au large, mais il faut que je respire, que je remonte à la surface. Je ne fais que ça jour et nuit, jour et nuit. Vas-tu me pardonner, je ne sais que déconner. Jour et nuit, jour et nuit. Je suis prise au piège sur le dos d'un requin. J'ai beaucoup de chagrin, le rivage est si loin. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Un homme à la mer pour chaque fille amère.
On aura sans doute reconnu Steffi Choc et la pièce « Un homme à la mer ».
Je prenais cette phrase et changez un seul de ces mots et vous obtenez mon article « Une bouteille à la mer ». Je ne sais pas ce que vous faisiez, si vous vous en souvenez, ce que vous faisiez le 12 juin 1886. J'avoue que la mémoire me fait défaut me concernant. Mais il s'est passé quelque chose d'insignifiant, mais qui devient exceptionnel. Elle avait été jetée à l'eau il y a près de 132 ans. Une bouteille contenant un message a été découverte par des promeneurs sur une plage australienne, ce qui en fait tout simplement le plus ancien exemple connu de bouteille à la mer. La bouteille rectangulaire était à moitié enfouie dans le sable près de Wedge Island, à 160 km au nord de Perth, a indiqué dans un communiqué le Western Australia Museum, l'organisation publique gérant les musées de l'État d'Australie occidentale. Elle a été découverte en janvier par une Australienne, Tonya Hillman, qui se promenait avec un groupe de 6 personnes, parmi lesquelles figurait la mère du pilote australien de Formule 1, Daniel Ricciardo. Il a fallu 6 semaines d'investigation jusqu'en Allemagne pour authentifier son origine et déterminer qu'elle aurait été jetée le 12 juin 1886 dans l'océan Indien, à 950 km des côtes, par un bateau allemand, le Pola, dans le cadre d'expériences scientifiques visant à comprendre les régimes de courant et améliorer les routes maritimes. Il s'agissait d'une jolie bouteille ancienne, alors je l'ai ramassée en me disant qu'elle irait bien sur ma bibliothèque, a déclaré Madame Hillman, citée dans le communiqué du Western Australia Museum. C'est la petite amie de mon fils qui a découvert le message en tentant de vider le sable de la bouteille. La note était mouillée, enroulée de façon serrée et enveloppée dans du fil. Plus tard, le groupe fit sécher le message avant de le dérouler et de découvrir une inscription imprimée en allemand et des mots écrits à la main presque effacés. Kim Hillman, le mari de Tonya, se lança alors dans des recherches sur Internet pour découvrir que le message semblait s'inscrire dans une campagne du Deutsche Seewarte, ou Observatoire naval allemand, qui, entre 1864 et 1933, lança à la mer depuis des navires des milliers de bouteilles contenant des messages standards que le capitaine du bateau devait compléter. À charge pour la personne qui découvrirait le message de le retourner au consulat allemand le plus proche ou à l'observatoire basé à Hambourg. Les Hillman informèrent le WAM qui se mit en relation avec des chercheurs néerlandais et allemands. De façon incroyable, des recherches dans les archives en Allemagne ont permis de retrouver le journal météorologique du Pola qui contenait une entrée au 12 juin 1886, écrite par le capitaine, qui indiquait qu'une bouteille avait été jetée à la mer, explique dans le communiqué Ross Anderson. La date et les coordonnées correspondent exactement à celles du message, a-t-il ajouté, en précisant que des examens graphologiques du message et d'autres notes manuscrites du capitaine confirmaient cette concordance. L'Agence fédérale maritime et hydrographique allemande et les services météorologiques allemands ont également confirmé l'authenticité du message, selon le WAM. La bouteille sera exposée au musée maritime de Fremantle. Les chercheurs pensent que la bouteille fut probablement rejetée sur le littoral australien dans l'année ayant suivi son largage. Elle serait longtemps restée enterrée sous une couche de sable mouillé, ce qui expliquerait sa conservation, avant qu'une tempête ou un autre événement météorologique ne lui permette de revoir la lumière du jour. Sur les milliers de bouteilles jetées à la mer par les navires allemands en 69 ans, seuls 662 revinrent à Hambourg. Celui de Wedge Island est le 663e. Le précédent avait été découvert il y a de cela quelques années quand même, puisque c'était le 7 janvier 1934 au Danemark. La plus ancienne bouteille à la mer jusqu'alors connue avait été larguée par un chercheur en mer du Nord en 1906 et retrouvée en Allemagne 108 ans, 4 mois et 18 jours plus tard, record donc battu avec ses 132 ans.
Maison intelligente, les dernières tendances. L'Internet nous suit partout, ou presque. Sa présence s'étend au-delà des ordinateurs, des tablettes et des téléphones. À leur tour, les appareils et les électroménagers du quotidien deviennent des objets connectés qui peuvent communiquer entre eux. Et surtout, ils ont la capacité de nous offrir un contrôle, un confort et une sécurité accrue, portrait d'une révolution numérique fascinante. Si les technologies de l'avenir vous intéressent, vous avez sans doute entendu parler de l'Internet des objets. Cette expression qui gagne en popularité se définit par l'extension d'Internet à des choses et à des lieux du monde physique. Son but ? Rendre le monde réel plus intelligent grâce à la connexion des objets. Le marché des objets connectés est promis à une forte croissance dans les prochaines années. En santé, l'Internet des objets pourrait permettre de favoriser l'hospitalisation à domicile, d'optimiser la consommation de médicaments grâce aux piluliers connectés et même d'encourager la prévention de certaines maladies. Cette révolution intelligente se taille également une place dans nos foyers à travers les multiples possibilités qu'offre la domotique. La domotique, formée de la contraction des termes « domicile » et « automatique », est une véritable lancée. De nombreux appareils et électroménagers sont maintenant équipés de technologies pour communiquer par Internet avec un système domotique. C'est le cas, par exemple, d'un éclairage intelligent qui se règle de façon autonome ou d'un système d'alarme qui se commande à distance par le biais d'une simple application mobile. Économie d'énergie, tranquillité d'esprit, sécurité accrue, confort supérieur, les avantages de vivre dans une maison intelligente sont nombreux et les possibilités sont quasi infinies. D'ici quelques années, l'intelligence artificielle au domicile deviendra une norme, voire une banalité. La question à se poser, votre maison est-elle prête à l'accueillir ? Du Wi-Fi intelligent partout chez vous, sachant que la révolution numérique à domicile fait son nid et que 77% des Canadiens voient Internet comme une ressource primaire, il est important d'avoir une couverture optimisée à la maison. Le signal Internet ne se rend pas dans toutes les pièces, cette réalité touche bien des gens. Particulièrement ceux habitant dans une maison spacieuse ou construite avec des murs trop denses. Pour augmenter la portée de votre réseau Wi-Fi, le Wi-Fi partout chez vous de Bell est la solution idéale. Ce réseau Internet maillé vous permet d'obtenir une couverture mur à mur grâce à des points d'accès exclusifs qui sont répartis dans la maison. Ces points d'accès, appelés capsules, travaillent ensemble et communiquent avec la borne universelle pour créer un réseau puissant et continu dans toutes les pièces de votre résidence. De plus, il est également possible de gérer à distance l'ensemble de votre réseau grâce à l'application Wi-Fi de Bell, incluant les contrôles parentaux sur tous les appareils reliés au réseau Wi-Fi, le partage d'accès aux invités et la mise à jour de votre mot de passe. Bien qu'il existe sur le marché des prolongateurs de portée, ceux-ci ont leurs limites. Ils permettent de répéter et d'étendre le signal vers des zones difficilement accessibles, mais la vitesse est toutefois réduite dès que le signal est répété plus d'une fois. Présentement, Bell est le seul fournisseur au pays qui amène le Wi-Fi intelligent et rapide à toutes les pièces de votre maison.
Je comptais tes peurs dans le temps, ce qui sépare l'espace de tes choix. Je n'étais pas seule. Et les fleurs, tu les comptes sur le bout de tes doigts. Qui défient noirceur et supplice. Mais moi, je suis attirée par le vice. On s'assemble ensemble. Mes petits m'attendent. Et quand le jour se lève, je reviens vers toi. Ce que
Extrait du prochain album à paraître de Cœur de Pirate, c'était la pièce Prémonition.
Jean-Charles nous parlait juste avant cette pause musicale des maisons intelligentes et qui dit maison intelligente dit bug informatique possible parfois et ça me plaît parce que ça alimente ma catégorie à moi des insolites. Eh bien justement un bug, l'assistant vocal d'Amazon rigole parfois un peu trop. Amazon a promis mercredi, la semaine passée, de calmer les rires sardoniques intempestifs de son assistant vocal Alexa après des plaintes d'utilisateurs effrayés. Sur Twitter, la vidéo de Capt Handlebar, où l'on peut entendre un « ha 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 » un peu inquiétant sortant d'une enceinte connectée, a déjà été vue près de 1,5 million de fois depuis le 23 février. Donc, Alexa a décidé de rire n'importe quand lorsque j'étais dans la cuisine. J'ai cru qu'un enfant riait dans mon dos, a écrit l'internaute. De nombreux autres utilisateurs ont aussi fait état sur les réseaux sociaux de cet étrange comportement. Certains disant avoir été quelque peu effrayés, et on les comprend, par leur appareil à commande vocale. Comme cet autre qui se dit ironiquement presque sûr d'être assassiné ce soir après que son enceinte connectée Echo se soit mise à rire spontanément. Mais selon Amazon, aucun esprit maléfique n'est impliqué. Alexa est simplement parfois un peu dur d'oreille. Dans de rares circonstances, Alexa peut par erreur entendre « Alexa rit », ce qui déclenche son hilarité intempestive, a expliqué un porte-parole du groupe. « Nous sommes en train de changer cette phrase. La phrase qui déclenchera désormais le rire sera « Alexa, peux-tu rire ?» moins susceptible d'être mal interprété, a-t-il encore expliqué. Ce n'est pas la première fois que des comportements insolites d'assistants vocaux sont rapportés. Selon un média allemand, un utilisateur a ainsi vu en novembre son haut-parleur activé par Alexa passer spontanément, et en son absence, de la musique à volume maximal en pleine nuit, au point que les voisins avaient appelé la police. Lancé en 2014 par le géant américain Amazon, Alexa, bourré d'intelligence artificielle, est présent dans des millions d'appareils électroniques et arrive même dans les voitures. A noter que Google, Microsoft ou Apple ont également leur assistant vocal, mais les leurs sont un peu plus sérieux et rigolent moins. We'll be right back.
Finalement, je vais vous parler du road trip, un art de la fugue qui intéresse désormais les agences de voyage. Prendre la route, avaler des kilomètres, se dépayser lentement pour mieux se dépouiller de sa vie de fourmi urbaine laborieuse, l'occasion de se retrouver mais aussi de distraire un touriste de plus en plus blasé. Ces temps-ci, l'appel du road trip chatouille bien des citadins blasés qui rêvent de décamper et de tailler la route loin des hôtels clubs, dont la seule errance consiste à aller de sa chambre à la piscine ou au buffet, au milieu de ses semblables bruyants, loin aussi de ces charters dans lesquels on monte en doudoune pour ressortir en débardeur quelques heures après, sans avoir vu le décor changer. Ce n'est plus la destination qui compte, mais le déplacement. Se perdre pour mieux se retrouver, tel Jack Kerouac ou Peter Fonda ou Dennis Hopper dans Easy Rider. Selon une enquête Rent-A-Car menée auprès de 4500 conducteurs européens, 20% déclarent que le trajet le plus marquant de leur vie de conducteur était un road trip entre amis. Les voyagistes se mettent d'ailleurs au diapason. Vintage Rides propose ainsi des vagabondages en Asie et en Royal Enfield, bien sûr. Au hasard de son catalogue, la Trans-Himalayenne, sans aucun doute le plus beau raid moto en Inde. Sensation du Monde propose de son côté un voyage sur la Mother Road, à savoir la fameuse route 66. Pour son road trip avec ses deux ados en août dernier, David, père divorcé, a choisi un itinéraire moins hardi, se contentant de traverser toute l'Espagne par le centre dans un van Volkswagen équipé réservé sur le site de location Van It. L'objectif était de nous arrêter au bord d'un point d'eau, lac, réserve naturelle, vaguement repéré sur Google Earth avant le départ. Mais nous avons beaucoup roulé au hasard par les nationales, car l'autoroute standardise trop le paysage. Il y a un effet tunnel. À chaque étape, nous prenions les chemins de terre pour chercher des heures, la halte parfaite. Le road trip, c'est l'infini des possibles et ça devient assez vertigineux.
Et restez avec nous juste après une courte pause, nous poursuivons notre road trip d'articles à dans quelques instants.
Aimable parmi les femmes de nos amis, laquelle est notre vraie nounou, la petite sœur des pauvres de nous, dans le guignon toujours présente, que les autres fait bienfaisante. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile, c'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non, c'est la femme d'Hector. Comme nous dansons devant le buffet bien souvent, on a toujours peu ou prou les bas criblés de trous, qui raccommodent ses malheurs de fils de toutes les couleurs, qui brode de divines cousettes, des arcs-en-ciel à nos chaussettes. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non, c'est la femme d'Hector. Quand on nous prend la main sacrée, bon Dieu, dans un sac, et qu'on nous envoie planter des choux à la santé, quelle est celle qui prenant modèle sur les vertus des chiens fidèles, reste à l'arrêt devant la porte en attendant qu'on en ressorte. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non, c'est la femme d'Hector. Et quand l'un d'entre nous meurt, qu'on nous mette en demeure de débarrasser l'hôtel de ses restes mortels. Quelle est celle qui remue tout Paris pour qu'on lui fasse au plus bas prix des funérailles gigantesques, pas nationales non mais presque. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Et quand vient le mois de mai, le joli temps d'aimer, que sans écho dans les cours, nous hurlons à l'amour. Quelle est celle qui nous plaint beaucoup? Quelle est celle qui nous saute au cou? Qui nous dispense sa tendresse, toutes ses économies de caresses? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Ne jetons pas les morceaux de nos cœurs au pourceau. Perdons pas notre latin au profit des pantins. Chantons pas la langue des dieux pour les balours, les fesses Mathieu. Les paltoquets ni les bobèches, les foutriquets ni les pinvèches. Ni pour la femme de Bertrand, pour la femme de Gontran, pour la femme de Pamphile. Ni pour la femme de Firmin, pour la femme de Germain, pour celle de Benjamin. Ni pour la femme d'Honoré, la femme de Désiré, la femme de Théophile. Encore moins pour la femme de Nestor, mais pour la femme d'Hector.
Certains d'entre vous auront peut-être reconnu La femme d'Hector. Cette pièce, à l'origine par Georges Brassens, c'est interprété ici par Christian Roberge, qu'on a pu découvrir dans la formation Lost Fingers. Christian Roberge qui nous a offert cet album hommage à Georges Brassens, intitulé Planète Brassens.
Une petite insolite qui nous vient d'Asie, de Bandung, dans un zoo, un orang-outan fumeur. Il tire sur sa cigarette comme un vrai fumeur. Un orang-outan de 22 ans a été filmé en train de prendre une bouffée de cigarette jetée allumée en sa direction par un visiteur dans un zoo en Indonésie. Les images d'Ozon, nom du singe, fumeur, au zoo de Bandung, à environ 150 km au sud-est de la capitale Jakarta, se sont répandues comme une traînée de poudre sur Internet. Il est pourtant interdit de jeter du tabac ou des aliments en direction des animaux du zoo, mais ces consignes sont très souvent ignorées par les visiteurs. Il y a un panneau qui signale l'interdiction aux visiteurs de donner de la nourriture ou des cigarettes aux animaux, a déclaré mercredi un porte-parole du zoo, regrettant l'incident. Le parc zoologique est doté de gardiens chargés de surveiller les animaux, mais celui qui est responsable de l'orang-outan s'est sans doute absenté pour aller aux toilettes, a expliqué le porte-parole, qui n'a qu'un patronyme comme nombre d'Indonésiens et s'appelle Sulan. Des défenseurs des animaux ont condamné le geste du visiteur, qui a donné une cigarette au singe, observant que l'incident mettait en exergue la piètre gestion des zoos dans l'archipel d'Asie du Sud-Est. Ce n'est pas la première fois qu'un orang-outan se fait prendre en train de fumer une cigarette en Indonésie, pays où le niveau de protection des animaux est très faible, et dont les habitants figurent parmi les plus gros fumeurs au monde. En 2012, un singe d'un autre zoo était devenu dépendant à la nicotine même, avant d'être contraint à un sevrage brutal. Voilà malheureusement pour ce genre de visiteurs peu scrupuleux qui ont des idées assez bêtes, et il me semble avoir lu dans un autre article que d'ailleurs ce n'est pas la première fois que ce zoo en particulier a ce type de problème, et qu'il y a une pétition qui circule en ligne pour le faire fermer.
À propos d'animaux, toujours, on va changer de sujet. une larve dans l'assiette. Les Occidentaux sont-ils prêts à manger des insectes? Pas sûr, mais au Québec, l'intérêt est grandissant. Si, pour plusieurs Occidentaux, l'insecte est perçu comme une bestiole non désirable dont il faut se débarrasser à tout prix, de nombreuses populations dans le monde considèrent plutôt les larves, les grillons et les sauterelles comme des aliments savoureux et nutritifs qui méritent bien d'être intégrés à l'alimentation. À Copenhague, le Nordic Food Lab s'est donné pour mission, depuis sa création en 2008, d'explorer le potentiel alimentaire de la région nordique. Et les insectes locaux font partie de l'équation. Pour le directeur de l'organisation à but non lucratif, Michael Baumfrost, c'est d'abord et avant tout pour leur saveur que les insectes méritent d'être explorés. Nous devrions manger des insectes si nous croyons qu'ils ont bon goût. Mais évidemment, ce qui a bon goût pour chacun d'entre nous est dépendant de la culture dans laquelle nous vivons, souligne-t-il en entrevue téléphonique à la presse canadienne. Monsieur Frost était de passage dans la métropole québécoise le 26 février, le temps d'une conférence à l'occasion de Montréal en lumière. Il estime que les aliments sont aujourd'hui souvent très artificiels et loin de leurs origines, et il préfère mettre l'accent sur les liens entre le lieu où nous vivons et la nourriture que nous mangeons. Donc, nous devrions manger des insectes, conclut-il, ajoutant que certaines larves du Danemark, séchées, ont certaines des mêmes qualités que le bacon. Nous ne croyons pas que nous devrions élever des insectes venant des régions équatoriales, mais plutôt que nous devrions diversifier nos sources alimentaires. Et je crois que cela inclut les insectes parce qu'ils permettraient de rendre notre consommation d'aliments et notre système alimentaire plus circulaire. Au Québec, l'inclusion de l'insecte dans l'alimentation demeure plutôt marginale, mais suscite tout de même un intérêt de plus en plus marqué. C'est du moins ce que remarque Yannick Grégo, chargé de la recherche et du développement et biologiste à la ferme d'insectes située à Frelischburg dans les cantons de l'Est. Aujourd'hui, quand on va dans les marchés, c'est vraiment fréquent de voir des gens qui ont déjà goûté à des insectes et il est très rare de voir du monde qui n'en ont jamais entendu parler. Ce qui n'était pas le cas auparavant, indique-t-il. La ferme d'insectes se consacre depuis 2015 à l'élevage du ténébrion meunier, un coléoptère dont la larve déshydratée peut être transformée en farine et ou mangée entière. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un aliment riche en protéines, c'est un peu à peu près comparable au bœuf. Une fois déshydraté, dans les ténébrions, il y a entre 40 et 50% de protéines. Comme on va manger l'animal en entier, on assimile vraiment ce qu'il y a dans son squelette et dans la chair. Note M. Grégo, une des raisons pour lesquelles les insectes sont autant mis sur un piédestal présentement, c'est parce qu'on les voit comme des remplaçants de la viande, carrément. Quand on les compare à la viande, d'un point de vue environnemental par exemple, on sait que la production d'insectes demande beaucoup moins d'intrants, autant au niveau de l'eau, au niveau de la nourriture qu'on va leur donner, ou du sol qui est nécessaire, ou même au niveau de la qualité du gaz à effet de serre qui va être émise pendant leur production. Énumère de son côté le nutritionniste Bernard Lavallée, auteur du livre « Sauver la planète, une bouchée à la fois ». Il reste que pour que les insectes finissent par s'intégrer à l'alimentation, encore faut-il que les gens acceptent d'en manger. Pourtant, Michael Baumfrost assure que les insectes peuvent avoir très bon goût et que la grande variété d'espèces différentes à travers le monde fait en sorte qu'il existe une multitude de saveurs à découvrir. Le ténébrion meunier élevé sur la ferme de Frelischburg, lui, a un goût comparable aux noix et aux noisettes, selon Yannick Grégo, qui s'est même fait dire récemment que l'insecte avait un goût de thé. Certains aliments qu'on considère comme étant dégoûtants, peut-être, et qui ne font pas partie de notre culture, pourraient très bien y être intégrés dans 10, 15 ou 20 ans. On n'a qu'à penser aux sushis, par exemple, qui, en quelques décennies, sont passés de quelque chose de très marginal au Canada à quelque chose de très, très commun qu'on retrouve même dans les machines distributrices, dans les dépanneurs, fait remarquer M. Lavallée, qui considère tout de même qu'il est encore trop tôt pour savoir si les insectes ne seront qu'une mode passagère ou s'ils finiront par s'implanter dans l'alimentation occidentale. En ce moment, c'est vendu comme étant la solution pour remplacer la viande, mais la réalité, c'est qu'on a déjà une solution pour remplacer la viande, et c'est de consommer des légumineuses, des sources de protéines végétales. Ça fait déjà partie de notre culture alimentaire. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à s'imposer comme le remplacement par excellence? Je n'en suis pas certain.
Suivons sur la thématique animalière, sortons de l'assiette quand même, puisque je vais parler de chat et que ça ne se passe pas en Asie, donc pas question de le manger dans ce cas-là. Achille, je vous présente Achille, un chat sourd, pronostiqueur officiel de la Coupe du Monde de Soccer 2018. Achille, un chat blanc et sourd, qui vit dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, a été choisi lundi comme pronostiqueur officiel de la Coupe du Monde de Soccer en Russie, qui se déroulera, je vous le rappelle, du 14 juin au 15 juillet. Nous tiendrons une conférence de presse spéciale et Achille disposera d'un laissez-passer officiel d'admirateurs, a indiqué l'attaché de presse du fameux musée, Marie Kalktunen, à l'agence de presse Airsport. Dans la foulée du célèbre Paul le Poulpe, qui avait prédit les 7 résultats de l'Allemagne au Mondial 2010 en Afrique du Sud, dont la défaite contre l'Espagne en finale, en désignant son drapeau avec un tentacule, Achille, le chat, sera régulièrement chargé de faire des prédictions sur la prochaine édition. L'Ermitage est rempli de chats très férus de football, de soccer, selon Airsport. Leurs ancêtres ayant été introduits dans les lieux par Pierre le Grand au XVIIe siècle, quand le tsar de toutes les Russies en a fait son palais d'hiver. L'impératrice Elisabeth a ensuite publié un décret exigeant que des chats soient envoyés à la cour. L'Ermitage est devenu un musée après la mort de la grande Catherine II de Russie en 1796. Aujourd'hui, près de 70 chats protègent le musée des rongeurs et disposent d'un personnel dédié, dirigé par Anna Kondratieva. Selon elle, Achille a pris un congé sabbatique et a pris même aussi un petit peu de poids, après avoir trouvé à l'avance l'an dernier l'équipe victorieuse de la Coupe des Confédérations, l'Allemagne, en soccer également. Achille pèse actuellement 4,7 kg et fera ses prédictions en choisissant parmi plusieurs bols de nourriture clairement identifiés. Il est sourd de naissance, ce qui explique son niveau d'intuition, conclut l'article.
Lecteur à l'aventure, escampette sur la côte nord, dans le magazine Découverte Magazine, un récit de Véronique Tanguet. Chaque année, quand la chaleur de l'été devient suffocante ou quand le rythme fou de la vie s'avère difficile à soutenir, une escapade sur la côte nord s'impose. Quelques jours suffisent pour casser la routine, fournir aux yeux des spectacles qui enivrent et apaiser les esprits tendus. Tout commence sur le majestueux fjord du Saguenay, à bord du traversier, d'où l'on peut déjà repérer des mammifères marins. Cette pause obligée donne un aperçu des prochains jours qui seront vécus lentement, pleinement. Avant de prendre la route vers l'est, on arrête aux dunes de Tadoussac pour contempler le paysage ou se griser d'une descente folle dans le sable blond jusqu'aux abords du fleuve Saint-Laurent. Les amateurs de boutiques sympathiques voudront visiter le village, d'autres choisiront un après-midi de farniente dans l'une des plus belles baies du monde. Que ceux qui souhaitent y plonger oublient tout de suite l'idée, l'eau du fleuve est franchement froide, même lors des plus chaudes journées. L'endroit tout indiqué pour la baignade est le lac Gobey, en bordure de la route 138. Une belle plage accueille tous ceux qui ont franchement envie de jouer dans l'eau tout en laissant passer le temps loin de la canicule. On poursuit la route vers les différents campings des Bergeronnes. Les connaisseurs arrivent assez tôt et s'installent au plus réconfortant Les connaisseurs arrivent assez tôt et s'installent au paradis marin, j'avais sauté une ligne, pour 2 jours et 2 nuits de grand air. Au petit matin, rien de plus réconfortant qu'un grand latte du café bleu à savourer en surveillant la présence des baleines dans la grande étendue du fleuve. Une balade en kayak donne l'opportunité d'être aux premières loges du spectacle extraordinaire de la faune marine, que ce soit celui des belugas, des nombreux phoques, des marsouins, des petits rorquals, du rorqual bleu ou même du rorqual à bosse et du cachalot, avec un peu de chance. Qui dit côte nord dit aussi poisson. Le meilleur endroit pour faire des provisions ou savourer une bonne chauderie de fruits de mer est la poissonnerie de pêcherie Manicouagan, quelques kilomètres plus à l'est. Derrière le bâtiment, on peut observer les oiseaux dans la grande baie et faire une longue marche à marée basse jusqu'au site historique de la Pointe à la Croix. Pour découvrir la faune et la flore marine, les plus avantageux profiteront de la notoriété des sites de plongée sous-marine du village des Escoumins, alors que d'autres choisiront simplement de descendre au quai des Pilotes, un endroit privilégié pour être témoin du changement de capitaine des imposants navires qui sillonnent le Saint-Laurent. On arrête en chemin au centre de découverte du milieu marin pour sa vue imprenable et son intéressant parcours d'interprétation. De retour au camping, on se prépare pour une autre soirée de bouffe en plein air et de contemplation. Après le souper, une petite marche sur les rochers permet de savourer les effluves salés et d'observer les premières étoiles avant une bonne nuit de sommeil dans la tente juchée sur un cap rocheux. Au petit matin, on se fait tirer les bras de Morphée par le souffle des baleines, une invitation à passer une magnifique dernière journée au rythme des marées avant de le retour au quotidien.
Et qui dit voyage dit peut-être appareil photo. Et cet article, ce court article, entre dans ma catégorie des articles où je vous donne des idées si vous avez un peu d'argent à investir. Si par exemple vous avez 4 millions de dollars, et bien voilà, c'est fait pour vous. Un appareil Leica datant de 1923 a été vendu samedi aux enchères à Vienne pour la somme record de 2,4 millions d'euros, soit près de 3,8 millions de dollars canadiens, devenant, selon le courtier, le plus cher au monde. L'appareil avait été mis aux enchères à 400 000 euros, soit 630 000 dollars canadiens. L'acquéreur est un collectionneur privé d'origine asiatique, souhaitant conserver l'anonymat, comme souvent, a précisé la galerie viennoise Westlicht, l'une des plus réputées au monde, qui organise régulièrement des ventes de modèles anciens et prestigieux. Le Leica fait partie d'une série de 25 prototypes fabriqués en 1923, soit 2 ans avant la commercialisation de la célèbre marque allemande. Et il compte parmi les 3 de cette série à être préservés dans leur état d'origine. Le précédent record de prix pour un appareil photo avait été atteint en 2012 pour un Leica de 1923 également, adjugé à 2,16 millions d'euros, soit près de 3,4 millions de dollars canadiens, selon la galerie. L'Autrichien, Andreas Kaufmann a racheté en 2005 le fabricant allemand Moribon et a réussi à relancer commercialement cette marque culte prisée par les pionniers du photojournalisme, dont Robert Capa ou encore Henri Cartier-Bresson.
Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béard, un solo de batterie, v'là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule, me traitant de raciste. Quand le jazz est là, La java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. pour moi jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et noirci à Harlem. Pour moi jazz et java, dans le fond, c'est tout comme. Quand le jazz dit gomène, la java dit gomme. Mais quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos.
Retour en 1962 avec Claude Nougaro, le jazz et la java.
Le prix Pritzker attribué à l'architecte indien Balkrishna Doshi. C'est un article paru dans la presse, tiré de l'agence France Presse également, de New York et de New Delhi. Balkrishna Doshi est devenu à 90 ans le lauréat le plus âgé et le premier indien à emporter le prix Pritzker, la plus prestigieuse récompense d'architecture au monde. Disciple du français Le Corbusier, Balkrishna Doshi s'est illustré par son architecture moderniste qui tranchait avec une Inde encore très traditionnaliste mais intégrait néanmoins des aspects de la culture du pays et ses traditions. Il est aussi connu pour son engagement en faveur d'une architecture durable et pour des logements peu coûteux. Parmi ses réalisations figure notamment l'ensemble Aranya à Indore, dans l'état indien de Madhya Pradesh. Il s'agit d'un projet gigantesque, ensemble de bâtiments d'un étage au plus, construit dans les années 80 pour répondre à une crise de logement dans la région. Aujourd'hui encore, quelques 80 000 personnes vivent dans l'une des 6 500 habitations construites dans le cadre de ce projet. Balkrishna Doshi a pensé l'architecture comme une extension du corps humain, empreint d'une volonté d'harmonie avec son environnement, qu'il s'agisse du climat, du paysage ou de l'urbanisme. Les réalisations de Balkrishna Doshi respectent la culture orientale tout en améliorant la qualité de vie en Inde, selon le communiqué publié mercredi par le jury du Pritzker. Ironie du sort, Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, qui a vécu de 1887 à 1965, n'a jamais reçu le prix Pritzker, attribué uniquement à des architectes vivants depuis 1979. En évoquant cette ville et ses réalisations, Doshi a souligné le rôle que pouvait jouer l'architecte, susceptible d'influencer la vie quotidienne des habitants, mais aussi leurs aspirations et le développement économique de la région. Ce choix de prix témoigne de l'orientation du jury, qui avait déjà récompensé l'an dernier le trio du cabinet catalan RCR Architectes, célébrant leur travail mêlant innovation et respect de l'environnement. Au fil des dernières années, le Pritzker récompense systématiquement des architectes en prise avec la réalité et la société, notamment le Chilien Alejandro Aravena, primé en 2016 et connu entre autres pour ses logements sociaux.
Salon en Grande-Bretagne, scandale britannique en raison d'un scone mal tartiné. Tartiner un scone, petit gâteau dense à base de beurre, farine et sucre, et partie intégrante de l'art de vivre britannique, ne s'improvise pas. Un site historique de Cornouailles l'a appris à ses dépens. Le salon de thé du domaine de Llandiorick, manoir victorien géré par un fonds national, avait posté sur sa page Facebook une photo pour vanter son thé de l'après-midi où figurait un scone avec une couche de crème surmontée d'une couche de confiture. Scandale devant cette faute de goût, puisqu'en Cornouailles, la tradition veut qu'on tartine d'abord la confiture, ensuite recouverte de crème. Cette méthode est en revanche celle de la région voisine et rivale du Devon, ce qui a mis le feu aux poudres. Inadmissible, choquant, vandalisme culturel. Devant le déluge de critiques sur sa page Facebook, le Fonds du patrimoine a choisi l'humour. S'excusant pour l'offense causée par une récente photo de Scone, il a assuré que l'équipe du salon de thé ne commettrait jamais une erreur aussi abominable due à un membre du personnel ignorant les coutumes locales. Et il a annoncé que le personnel arborerait un badge « Jam First », « Confiture d'abord », pour tenter d'étouffer ce Scone Gate qui a eu lieu dimanche, jour de la fête des mères au Royaume-Uni. Ce qui conclut cette émission, une heure déjà en notre compagnie. Remerciements à mon collègue acolyte pour les nouvelles, les articles. Merci Jean-Charles Algan.
Ça fait plaisir, Louis.
Remerciements également à Jean-Sébastien La Liberté pour la mise en onde et les choix musicaux de qualité, comme toujours. Oui. Dans quelques instants, retrouvez, si je ne me trompe pas, Hélène Denis pour le quotidien des quotidiens. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dès la semaine prochaine, mardi prochain, même heure. Bonne semaine à tous. Au revoir.
Au revoir.